Bonsoir à toutes et à tous. Ils ont parti devant ce micro pour parler de l'actualité sportive sur VO Afrique, tout comme mes consultants qui sont déjà en ligne. On prend le tout premier en direct de Columbus dans l'Ohio. Ahmedine Sy, bonsoir.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA.
À Casablanca, au Maroc, nous avons Amine Birouk. Bonsoir Amine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Jules Valentin Ngoué est lui à Libreville au Gabon. Bonsoir Jules.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Et puis lui est bien logé dans la capitale béninoise Port-Novo, Lawal Tinikosuro. Bonsoir Lawal.
Bonsoir Élisée, j'en profite pour saluer les auditeurs de VOA Afrique.
Alors, l'actualité, c'est bien l'Euro de football qui a l'étape des huitièmes de finale. Sporama, c'est parti. L'Euro bat son plein sur les pelouses allemandes avec les huitièmes de finale. Et l'équipe de France assure l'essentiel en se qualifiant aux dépens de la Belgique sur le score de 1-0. Alors, Amine, dans un match fermé, la délivrance est venue de Kolo Muani qui a vu son tir contré par le défenseur belge Vertonghen.
Le 76e France-Belgique de l'histoire a souri aux tricolores qui ont battu les Diables Rouges sur le score 1-0. Un but de Kolo Muani à la 85e minute et on a vu une rencontre très équilibrée, très cadenassée avec des équipes qui n'ont pas voulu prendre trop de risques. En dépit de quelques éclaircies signées d'un côté Kylian Mbappé, de l'autre Kevin De Bruyne. On a vu une équipe française qui a essayé de répondre aux critiques sur le terrain à travers un jeu un peu plus vif, un peu plus imaginatif. Et une équipe belge plus sur la réserve qui a cherché à contrer de manière résolue et avec la volonté de prendre sa revanche après la demi-finale de Coupe du Monde perdue face à cette même équipe de France en 2018. Kylian Mbappé a beaucoup tenté et surtout beaucoup raté. Idem pour Aurélien Tchouaméni qui n'a jamais trouvé le cadre. Et la délivrance est venue à la 85e minute par Randal Kolo Muani sur une frappe contrée par Vertonghen. Permet à la France de se qualifier pour les quarts de finale de l'Euro, de poursuivre sa quête d'un troisième sacre après ceux obtenus en 1984 et 2000, même si sur le contenu, le jeu n'y était pas. La Belgique quitte une nouvelle fois une grande compétition par la petite porte et visiblement, la greffe n'a pas pris avec l'entraîneur Tedesco. La génération dorée est en train de prendre sa retraite. Il ne reste plus que Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, mais visiblement ces deux joueurs ne connaîtront pas la joie de gagner un titre avec leur pays.
Merci Amine Birouk. En cas, la France sera opposée soit au Portugal ou à la Slovénie qui s'affrontent actuellement. On vient à vous Jules. Les Portugais devront se maîtriser face à un autre novice.
En tout cas Élisée, partant d'un certain nombre de constats logiques, les Portugais savaient que le huitième de finale contre la Slovénie ne serait pas une partie de plaisir, mais plutôt le match piège parfait. Car si par son nom actuel, ce pays apparaît théoriquement comme un novice de la plus grande compétition européenne des nations, dans la réalité, la Slovénie, qui est une des trois principales composantes de l'ex-Yougoslavie, avec la Serbie et la Croatie, appartient tout simplement au principal réservoir d'exportation de joueurs et d'entraîneurs de qualité de l'histoire du football, aux côtés du Brésil et de l'Argentine. Par ailleurs, la Slovénie actuelle, voisine de l'Autriche, la Suisse, l'Allemagne et la Slovaquie, quatre nations jouant ces huitièmes de finale, dont deux déjà qualifiées, appartient au pôle d'excellence que l'Allemagne vient de créer à travers sa Bundesliga dans ce qu'il convient d'appeler la Mitteleuropa, l'Europe du milieu, dont les clubs ont fait mouche cette année, tandis que la Belgique, battue d'entrée par la Slovénie, ou l'Italie, humiliée par la Suisse, s'y sont déjà piqués. La qualité de son effectif et son aisance sur le terrain, depuis le début de la compétition, fait du Portugal le favori de ce huitième de finale. Mais pourvu qu'il se souvienne de la gifle de l'insolente Géorgie en dernier match de poule.
Voilà, les deux derniers huitièmes de finale auront lieu demain et à Médine. Les Pays-Bas devront éviter le piège roumain.
Tout à fait, Élisée. Les Pays-Bas devront éviter le piège de la Roumanie, car les joueurs de cette équipe de la Roumanie en feront tout pour mettre fin à la domination historique des Hollandais. Car si on regarde les statistiques, les Néerlandais partent largement avec la faveur des pronostics, puisqu'ils ont déjà remporté 10 de leurs 14 rencontres face à cette équipe de la Roumanie. Mais il y a un grand mais, car si on regarde cette affiche, la Roumanie a une très belle carte à jouer, puisque la Roumanie a terminé en tête du groupe grâce à sa large victoire contre l'Ukraine par 3-0. C'est vrai qu'ils ont ensuite concédé une défaite face à la Belgique sur le score de 2-0. Ensuite, ils ont fait un match nul contre la Slovaquie. D'ailleurs, les quatre équipes de ce groupe étaient à égalité sur l'ensemble quand même de ces trois matchs. Mais la Roumanie a terminé à la tête de ce groupe grâce à une meilleure goal différence. Concernant les Pays-Bas, ils se sont contentés de la troisième place du groupe derrière l'Autriche et la France. Pourtant, les Hollandais, les hommes de Koeman avaient bien entamé l'Euro en dominant la Pologne. Ensuite, ils ont fait match nul contre la France avant de s'incliner contre l'Autriche. Pour vous dire que c'est une équipe classée première qui rencontre une équipe classée troisième. Cela veut dire ce que cela veut dire. Donc, c'est un match piège pour les Pays-Bas qui devront sortir le grand jeu face à la Roumanie. Élisée.
Voilà, le vainqueur de ce match affrontera en quart de finale à Berlin le samedi prochain l'Autriche ou la Turquie. Lawal, après avoir arraché la première place du groupe D, les Autrichiens tenteront de prolonger leur parcours face à des Turcs enthousiastes.
Enthousiasme chez les Turcs, mais les Autrichiens, c'est un peu la surprise de cette compétition. Déjà, pour avoir accroché la France à l'entame de la compétition et pour avoir réussi à prendre la première place, à arracher la première place à la France, et on constate bien que les Autrichiens ne sont pas venus en balade comme d'habitude, et les Turcs également, avec Ada Güler et bien d'autres, vont essayer donc de confirmer la bonne forme qu'ils ont eue pendant les matchs de groupe. On espère avoir donc un match très enlevé, très intéressant, et le meilleur va certainement l'emporter, Élisée.
On reste avec vous, Lawal. Ces huitièmes de finale ont démarré le samedi et la Suisse a facilement écarté le champion d'Europe en titre, l'Italie, 2-0. Une triste squadra azzurra qui n'a pu rien faire.
Non, elle ne pouvait même rien faire parce que on a senti la méforme des Italiens à l'entame donc de la compétition, et le match nul heureux qu'ils ont eu avec la Croatie était donc l'arbre qui cachait la forêt. L'Italie n'a pas véritablement les moyens de défendre son titre, malheureusement. Et les Italiens ont peut-être pris tout le temps à reconstruire l'équipe, à chercher à reconstruire l'équipe, et cette reconstruction n'a pas pris, et l'Italie était venu donc juste en balade, et la Suisse lui a montré qu'elle est là, non pas en balade, mais pour concrétiser ses occasions. 2-0, vous voyez que c'est trop facile pour la Suisse de battre l'Italie. L'Italie qu'on espérait aller plus loin dans la compétition a été assez décevante, et il faut avoir le courage de le dire. La squadra azzurra n'a rien pu faire, étant donné que la Suisse s'est reprise, et la Suisse a montré que c'était juste un accident de parcours que d'être battue par l'Italie. À l'édition précédente, la Suisse a pris une belle revanche sur l'Italie, et c'est ça le plus important à retenir. L'Italie n'était pas dans sa forme et on ne pouvait même pas espérer l'Italie aller loin dans cette compétition.
Sacré Lawal. En cas donc, la Nati fera face à l'Angleterre, tombeuse de la Slovaquie 2-1 après prolongation. Ahmedine, que ce fut difficile pour les Anglais.
Ah oui, Élisée, ah oui, une qualification acquise très très difficilement pour les Anglais, car les hommes de Southgate étaient éliminés après 95 minutes de jeu, ils étaient déjà éliminés après l'ouverture du score d'Ivan à la 25e minute. Mais comme vous le savez, Élisée, il a fallu une nouvelle merveille de Bellingham pour éviter quand même l'élimination à cette équipe d'Angleterre, puisque le jour du Real de Madrid a remis quand même les pendules à l'heure dans le temps additionnel à la 95e minute pour être plus précis, et il a remis les pendules à l'heure de fort belle manière, d'une retournée acrobatique exceptionnelle. Ensuite, le capitaine Harry Kane a fait le récent en marquant un but. Je vais même appeler ce but le but de la délivrance dès l'entame des prolongations, d'une belle tête, ce qui a permis à l'Angleterre d'éviter une élimination dès les huitièmes de finale. L'Angleterre qui va poursuivre l'aventure en affrontant la Suisse, mais ce sera un match extrêmement difficile pour les Anglais. Élisée.
Le second quart mettra aux prises l'Allemagne à l'Espagne. Jules, le pays hôte a défait le Danemark dans un match indécis.
Un match indécis et un match perturbé, il disait. Mais une rencontre relevée en deux formations généreuses dans l'effort et qui aime produire du jeu. La première mi-temps est partie tambour battant par la volonté d'un Danemark voisin, décomplexé et plus audacieux, mais dont l'allant offensif sera abondamment douché par un déluge d'une intensité rare, provoquant une interruption de jeu de 25 minutes. À leur retour des vestiaires, les Allemands vont prendre les commandes de la rencontre à leur tour et plier le match dans le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps sur deux buts du pivot d'attaque, le joueur d'Arsenal Havertz, puis un bijou du précoce dynamiteur de défense, le jeune prodige Jamal Musiala. L'intérêt de la rencontre a aussi été ravivé par l'activité de la VAR, impitoyable à quelques centimètres près. Mais en fin de compte, ce fut une grande rencontre avec un courageux perdant, le Danemark, et surtout un vainqueur allemand plaisant, taille patron, dont la force repose sur une excellente colonne vertébrale composée du gardien Neuer, du patron de la défense Rüdiger Assagi, puis le relayeur Toni Kroos derrière les deux pistons d'attaque, l'artificier Musiala et l'artilleur Havertz à la finition. Quelle que soit la fin de l'histoire présente, une grande équipe d'Allemagne est née de ses cendres.
L'Espagne est donc prévenue. La Roja est venue à bout de la Géorgie, non sans mal, en s'imposant sur le score très net de 4-1. Mais Amine, les Espagnols ont dû batailler contre une vaillante équipe géorgienne.
Certes, Élisée, l'Espagne a souffert, mais l'Espagne s'est dépêtrée d'un beau piège tendu par Willy Sagnol et ses 11 joueurs géorgiens. Une équipe espagnole qui a dominé le début de la rencontre avec un taux de possession excédant les 85%, mais qui a failli lors de la première contre-attaque lancée par les joueurs de Willy Sagnol, qui ont su faire peur à des joueurs espagnols. La preuve, le CSC ou le but contre son camp de Lenormand, qui a bouleversé les données de cette rencontre. Les Espagnols ont dû donc pousser, chercher des ressources inespérées et trouver des solutions comme la frappe de Rodri derrière la surface de réparation qui a permis l'égalisation. Puis ensuite, au retour des vestiaires, les Espagnols ont su garder leur calme, préserver leur identité de jeu, retrouver cette joie de jouer, surtout trouver la faille à trois reprises par Fabián Ruiz, par l'inarrêtable Nico Williams et enfin grâce à Dani Olmo. Un succès qui permet aux Espagnols d'atteindre les quarts de finale avec des perspectives. Un beau duel contre le pays organisateur, ce qui pourrait être déjà une finale avant la lettre entre la technique et la finesse des Espagnols et la qualité et la puissance des Allemands.
Voilà, merci Amine. On rappelle que ce match aura lieu le vendredi prochain à partir de 16h temps universel. Une autre compétition continentale en cours actuellement aux États-Unis où émet la radio, la Copa América. Et on joue les troisième matchs de poule, déjà qualifiés pour les quarts de finale. L'Argentine, sans Messi, laissée au repos, a battu le Pérou 2-0. Le Canada a pris la deuxième place dans ce groupe A après son nul 0-0 face au Chili. Amine, les tenants du titre argentin s'affichent clairement en faisant le plein de confiance.
Je pense que pour l'Albi Céleste, il y a un avant Copa América qui s'est déroulé au Brésil et un après. On se rappelle d'un pays qui n'avait plus gagné ce trophée ou le moindre trophée depuis l'édition 1993 de la Copa América et qui vivait chaque compétition continentale ou internationale comme une suite de malédictions ou de malchance, avec comme symbole de cette malédiction un certain Lionel Messi. Aujourd'hui, les choses ont changé. La victoire au Brésil, Maracana face aux Oriverdés, a décomplexé les joueurs argentins. Quelque chose sur le plan mental s'est débloqué. On l'a vu lors de la Coupe du Monde, où malgré quelques rencontres difficiles, exemple le quart de finale face aux Pays-Bas ou la finale face à la France, les Argentins ont toujours trouvé des solutions pour pouvoir gagner et enfin brandir la troisième Coupe du Monde de leur histoire. Aujourd'hui, ils sont en mode favori lors de cette Copa América et surtout en mode gestion. On l'a vu dès le premier match face au Canada, ça s'est poursuivi face au Chili. Et ce week-end face au Pérou, l'équipe entraînée par Lionel Scaloni a pu réussir le plein de points. On va devoir maintenant changer de dimension de compétition parce qu'on passera du côté de l'Argentine d'une compétition de championnat où il s'agit de prendre des points à des matchs couperés. Et c'est là où on verra si cette équipe a atteint une maturité, une dimension supplémentaire, ou si, au premier obstacle sérieux, elle flanchera. Mais il existe une certitude aujourd'hui, avec Lionel Messi, avec la qualité de joueurs comme Lautaro Martinez ou comme Julian Alvarez, avec un Paredes au four et au moulin au milieu de terrain, il y a bel et bien une équipe qui est de la marge, elle s'appelle l'Argentine.
Amine, très séduit par cette Argentine, mais une autre équipe a bien progressé. Le Venezuela, qui est très en forme dans le tournoi, avec un sans faute dans le groupe B. Une belle victoire en conclusion, 3-0 face au Jamaïque, pendant que Amine, le Mexique, sombre et ne verra pas les cas.
C'est la belle surprise de cette Copa América, le Venezuela, avec 3 victoires en autant de matchs. Il faudrait juste situer le contexte historique, car jamais le Venezuela n'a brillé dans la compétition. Et c'est le seul pays d'Amérique du Sud qui n'a jamais réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde. Mais aujourd'hui, la sélection est compétitive. Elle l'a prouvé lors des 2 premières rencontres et l'a corroboré avec cette victoire sur le score de 3-0 face au maillon faible du groupe, la Jamaïque, qui n'a jamais été véritablement dans le match. Avec des joueurs, de belles individualités. L'exemple de Salomon Rondon, le Venezuela est bien parti pour briller, avec une belle qualification pour les quarts de finale, et la possibilité de continuer à vivre une belle aventure, puisqu'elle affrontera en quart de finale le deuxième du groupe A, à savoir le Canada. Et puis, il y aura au rendez-vous également l'Équateur qui a tenu en échec le Mexique 0-0. L'Équateur qui passe grâce à son meilleur goal average, et qui a réussi à se remettre dans la compétition après une défaite initiale face au Venezuela, au Vinotinto. Alors que le Mexique, curieusement, ne passe pas le cut du premier tour. Les Mexicains, éliminés au goal average, qui n'ont marqué qu'un but, n'en ont concédé aussi qu'un seul, mais ont paru véritablement inefficaces tout au long de la compétition. Preuve en est, lors de leur défaite, ils avaient un pénalty contre le Venezuela qu'ils n'ont pas pu transformer. C'est ce pénalty qui leur coûte la qualification. Maintenant, on a déjà une partie du tableau des quarts de finale avec l'Argentine qui affrontera l'Équateur. L'équipe du Venezuela qui en découdra, bien évidemment, avec le Canada. En attendant, le verdict dans les groupes C et D, où l'Uruguay fait figure de favori, et où le Brésil est un peu en difficulté après un départ poussif contre le Costa Rica lors du premier match.
Voilà qui est clair. Et justement, Jules, la CLSAO, avec 4 points, joue sa qualification face à la Colombie, leader du groupe, et déjà qualifiée pour les quarts de finale.
Tout d'abord, Élisée, au lieu de parler d'une rencontre décevante du Brésil, dans son premier match de poule contre le Costa Rica, Il faudrait plutôt féliciter la formation d'Amérique centrale d'avoir réussi un non-match parfait qui consistait à empêcher les attaquants brésiliens de recevoir, tout au long de la rencontre, des ballons négociables, souvent même de se retourner dans leur milieu de terrain. Résultat, les Brésiliens ont eu des situations plus que des occasions et n'ont pas pu scorer. Face au Paraguay, plutôt joueur, les artistes brésiliens se sont libérés et Vinicius Junior a réussi son doublé. Le scénario tactique sera sans doute comparable contre la Colombie, joueuse elle aussi, brillante et déjà qualifiée. Sauf catastrophe globale dans la poule, le large goal différence de la Seleção devrait lui permettre d'accompagner son adversaire du jour pour la suite de la compétition.
Une qualification qui s'annonce difficile aussi pour les États-Unis opposés à l'Uruguay dans la poule C. À Médine, le pays hôte s'est mis tout seul en difficulté après sa défaite face au Panama.
Ah oui, Élisée, les États-Unis sont en très grand danger car ils risquent d'être éliminés dès les matchs de groupe après la défaite subie en 2-1 face au Panama. Il faut le dire, les États-Unis qui accueillent cette compétition avaient bien démarré. Ils avaient bien démarré puisqu'ils avaient dominé la Bolivie sur le score de 2-0. Mais les Américains ont grillé une carte en s'inclinant face aux Panaméens sur le score de 2-1. Une défaite très, très, très amère puisque les Américains ont joué presque toute la partie à 10 depuis la 18e minute, la faute à Tim Weah qui a écopé de carton rouge pour avoir donné un coup de poing à son adversaire. Ensuite, ce fut la défaite amère. Maintenant, il faut battre quand même non seulement l'Uruguay qui est non seulement leader de ce groupe, mais l'Uruguay a déjà gagné 15 fois cette compétition, ce qui veut dire que ce sera très difficile pour les Américains qui n'ont battu que la Bolivie lors du premier match. Et si on regarde le classement, l'Uruguay est leader, ensuite viennent les États-Unis et le Panama, et le Panama va rencontrer la lanterne rouge, la Bolivie. Donc les Américains doivent impérativement gagner pour poursuivre cette aventure. C'est une mission qui sera très difficile pour les Américains. Élisée.
Alors Lawal, ça me dit de vous poser cette question. Comment voyez-vous les deux compétitions? L'Euro bien évidemment et la Copa América.
À vrai dire, il n'y a pas de comparaison à faire. On a senti, on a bien compris que l'UEFA est au-dessus en matière d'organisation, en matière de professionnalisme, en matière donc d'entrain, d'engouement. L'Euro, je veux dire, est donc un cran au-dessus de la Copa. Mais le fait que la Copa ait élargi la compétition aux autres pays du continent américain, ça a donné plus de visibilité à cette compétition. Et que ce soit organisé aux États-Unis, vous avez compris que les sponsors ont afflué massivement pour soutenir donc cette Copa. Et il faut dire que c'est une Copa modernisée qui aujourd'hui est en train de titiller l'Euro, mais l'Euro c'est un cran au-dessus et c'est comme un match préparatoire avant donc la finale, un avant-goût, il faut le dire, avant donc la Coupe du Monde 2026 qui va se jouer entre trois pays et là. Et il faut expérimenter ça et c'est ça le plus important. On a aujourd'hui l'Euro qui se joue en Allemagne, la Copa aux États-Unis. Donc c'est déjà deux compétitions qui se jouent au même moment dans deux continents différents. La Coupe du Monde, c'est comme on dirait une Coupe du Monde bis avant la Coupe du Monde elle-même à proprement parler, Élisée.
Merci à vous, Lawatin Kosuro. Merci aussi à Mine Birouk, à Jules Valentin Ngwe et à Medine Si. Sporama qui vient d'être conjugué au passé. Le rendez-vous est donc pris pour un autre numéro lundi prochain. Mais d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Salut à tous, c'est Yakuba Ouedraogo. Vous aimez le sport? Vous voulez comprendre davantage chaque discipline? Vous voulez en discuter? Retrouvez-moi chaque lundi en direct à partir de 19h05 temps universel dans Sporama sur VOA Afrique. Pour participer à l'émission, c'est très simple. Laissez-nous vos commentaires et numéro de téléphone sur notre page Facebook. Nos spécialistes du sport sur le continent sont là pour vous apporter leurs éclairages. À très vite sur le terrain de VOA Afrique.